en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y a 7 ans, personne ou presque ne la connaissait. C'est en 2012 que Nawel Madani a été révélée au public grâce au Jamel Comedy Club, l'émission télé lancée par Jamel Debbouze qui a vu éclore tant de talents. La France découvrait alors cette jeune Belge d'origine algérienne partie à Paris sans l'approbation de ses parents pour devenir danseuse professionnelle. Aujourd'hui, elle sort le DVD de son spectacle « C'est moi la plus belge », atteint ses fans dans quelques jours sur la scène de l'Olympia et tient le haut de l'affiche dans son propre film co-réalisé avec Ludovic Colbeau-Justin. Ça s'appelle C'est tout pour moi, c'est dans les salles depuis hier et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nawel Madani.
Bonjour.
Pourquoi sortir ce film aujourd'hui? Vous êtes encore extrêmement jeune, c'est quand même fou que vous ayez besoin de raconter votre parcours à votre public.
Moi j'avais aucun besoin, c'est un producteur qui a poussé les portes de mon théâtre. J'étais au feu de la rampe, j'étais même pas encore là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais vraiment, je débutais avec ce One, et j'ai Cyril Colbeau-Justin, grand producteur, qui pousse les portes et qui me dit, j'aime cette relation père-fille, j'aime l'histoire où tu parles de la conquête, de la fierté de ton père. Est-ce que tu penses que tu peux m'en sortir un pitch? De là, je lui sors un synopsis.
Oui.
C'est pas moi qui devais interpréter le personnage. On était parti sur une idée de raconter cette jeune fille qui veut devenir danseuse, qui part à la conquête de Paris, qui part à la suite, une fois qu'elle atteint son rêve du bout des doigts, bah, il lui manque un peu les applaudissements de son papa. Un Billy Elliot à la française. On part sur cette histoire. Je rencontre un certain succès. Il me dit, tu veux pas injecter un peu le stand-up? Ça serait cool. Je dis, ouais, mais là, c'est un double objectif. Comment on va faire pour que ça tienne sur un film? Parce qu'habituellement, l'héroïne n'a qu'un objectif. Il dit, bah, écoute, tu expliques un peu ton histoire. C'est là où on a commencé à se rapprocher beaucoup des événements qui me sont arrivés. Et pour me protéger, on a donné le personnage, on a donné le prénom au personnage de Lila.
Le prénom de Lila, oui.
Et par manque de financement, il a fallu que j'endosse pas mal de casquettes. Ah. Moi, je n'étais pas du tout crédible. L'héroïne a une vingtaine d'années, elle se fait gifler, le père lui interdit de devenir un jeu. Je dis, mais tu penses vraiment que je peux endosser ce personnage? Il me dit, vas-y. 5 semaines de tournage, un peu moins de 3 millions, et il faut faire ce film. Donc, j'endosse toutes ces casquettes.
D'accord. Donc, Lila, c'est Nawel?
C'est beaucoup de moi, mais c'est beaucoup aussi de mon entourage et c'est aussi des histoires que j'ai pu observer de près ou de loin.
Oui, donc Lila, la petite fille des quartiers populaires d'Anderlecht en Belgique avec ses immeubles en briques, là c'est vous.
Pas tout à fait, parce que moi j'ai grandi dans un pavillon, il y a des choses, ma mère est en vie, grâce à Dieu, j'ai pas qu'une sœur, j'en ai deux, j'ai même un petit frère,
ouais.
Il y a beaucoup, on est parti puiser en moi quand il fallait, et on en est sorti quand on en avait besoin.
Mais la petite fille qui se brûle le crâne au troisième degré, ça par contre,
à 2 ans
c'est
et demi,
vous,
pas à 6 ans.
Avec cette cicatrice,
très présente
sur le cuir chevelu.
Exactement.
Donc la casquette, obligatoire dans un premier temps,
exactement.
Évidemment. Est-ce que c'est cet accident-là, Nawel Madani, qui vous a donné la force de caractère dont vous avez eu besoin après pour mener votre carrière?
Complètement. Il a fallu que je trouve ma place dans ma famille. Il a fallu que je trouve ma place à l'école. Et je l'ai trouvé en poussant les portes de cette MJC où il y avait de tout, de toutes les origines, toutes les classes sociales, trouver sa place. On dansait, c'était un peu la discipline des pauvres, le hip-hop. Un bout de carton, un reflet de miroir, et on se mettait tous à briquer. Et c'était le seul endroit où on posait pas de questions sur ma casquette.
Tu sais ce qu'elle disait, maman?
Que t'arrêtes de fumer.
Mais non, pas ça, ça te fait du mal.
La mère des France, c'est l'attaque.
Et alors? Hop, 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 hop. Donc, si on te dit c'est pas une coupe de cheveux, c'est un gratin de finnois, tu réponds quoi?
C'est ta mère, le gratin de finnois.
Bravo! Allez, vas-y, hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Parfait, ma fille, parfait. Et si on te dit on t'a fait un brushing au chalumeau?
C'est ta grand-mère qui a fait un brushing à sa chatte.
Quoi?
Voilà, comme quoi elle est déjà très très jeune, vous aviez déjà, enfin Lila en tout cas, a déjà quelques dispositions à la répartie.
Oui, c'est vrai que mon père, là il me fait des pattes d'ours, c'est ce qu'il me faisait souvent. Et d'ailleurs c'est ma mère qui me disait, Nawel, la meilleure défense de l'attaque, c'est l'attaque, arrête de rentrer en pleurant. Tout le monde a un défaut, tout le monde a quelque chose qui, voilà, qui y a des complexes. Elle dit, il faut que tu observes les gens. C'est elle, c'est vrai, qui m'a initiée à ce comique d'observation.
Oui, alors la mère est absente pourtant du film. Pour
exactement,
quelle raison?
Exactement.
C'est très étonnant parce que il y a une relation très très forte et très importante évidemment pour la progression de l'intrigue entre Lila et son père. On va évidemment parler dans un instant. Mais la mère, elle est absente dès le début.
Oui, ça a été. Il y a différents événements en fait. Le premier a été que celle avec qui j'ai commencé à écrire ce film a été atteinte d'un cancer, touchée par un cancer du pancréas. Donc, un peu avant la préparation du film, on a su qu'elle allait jamais nous rejoindre. C'était une façon aussi de lui rendre hommage.
Vous pouviez pas la remplacer.
On s'était donné une promesse. C'est comme ça. On ne remplace pas quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital. Pas pour moi, en tout cas. Donc, c'était à ma manière à moi de lui dire que j'étais fidèle à elle jusqu'à la mort. Et elle est partie. Elle m'a appris beaucoup. C'est elle qui m'a poussée à monter sur scène, à faire tout ça. Et elle m'a appris à m'émanciper et à m'accepter, même avec mes complexes. C'est vrai que même si elle avait existé dans ce film, je pense qu'elle aurait été écrasée par la présence du père.
Bon, alors le père, il s'appelle Omar. Hein, il est vraiment extraordinaire. C'est un comédien impressionnant. Il s'appelle Mimoun Ben Abderrahman. D'autant plus extraordinaire que ce n'est pas un acteur professionnel.
Oui, c'est un chauffeur VTC.
Alors comment est-ce que vous l'avez trouvé?
Eh bien, c'est après une petite anecdote qui m'a pas trop fait rire. J'étais en train de sortir de scène. Et comme on met toujours du temps à dire au revoir à son public et aux professionnels qui viennent vous saluer, il est 2h, 3h du matin et je fais appel à un chauffeur Uber. Je m'endors dans la voiture. Il me filme, moi qui dors à la bouche ouverte, et je me retrouve avec cette vidéo sur Internet. De là, je demande à mes équipes de me trouver un chauffeur professionnel. Et là, j'ai un membre de mon équipe qui me dit « Moi, je connais quelqu'un. Il est bien, il vient d'avoir sa licence, il est correct et en plus il ne te connaît pas. » J'ai dit « Super, la Mimoun rentre dans l'équipe.
Oui. »
Je rencontre ce monsieur, 60aine d'années. Il parle le même dialecte que moi, algérien. Hein, on commence à beaucoup dialoguer, on parle franco-algérien, on rigole, on écoute la même musique. En parallèle, je cherche un père dans les agences de casting, un père d'une 60aine d'années d'origine maghrébine. J'ai du mal à le trouver, moi qui fantasmais sur Omar Sharif, il nous a quittés lui aussi, paix à son âme. Oui. Et puis j'ai pensé à Feleg. Puis il a été le papa de beaucoup d'acteurs. Je me suis dit, c'est dommage, est-ce que je pourrais pas trouver mon propre papa à moi? Et là, Mimoun, j'en parle un jour, je lui dis « Tu veux jouer avec moi ?» Il m'a dit « Jouer à quoi ?» Là, je me suis dit « Ah, je suis pas dans la merde !»
Oui. Il n'avait jamais fait de comédie de toute sa vie.
Jamais, je lui dis « Je vais jouer au cinéma. » Il m'a dit « C'est pas pour moi. Vraiment, c'est pas pour moi, Nawel. Et puis, je vois comment les gens, ils t'ennuient. Moi, je veux pas ça, je veux pas de Snapchat, Instagram et tout. » Je dis « Oh là là, on n'est pas sûr de rencontrer le succès avec ce film. » Donc, 5 semaines. Il a garé sa voiture pendant 5 semaines. Et il a jamais récupéré parce qu'aujourd'hui, il est demandé sur d'autres films.
D'accord, il joue un père plein de gentillesse, de tendresse, un père qui aime passionnellement ses filles, parce qu'il n'y a pas que Lila, il y a la sœur aussi. Et pourtant, il veut pas que sa fille devienne artiste.
Exactement.
Pourquoi? Veut pas de cette carrière artistique?
Parce que, comme mon papa, parce que ces carrières artistiques, c'est beaucoup de sacrifices et peu de garanties. Pour des parents qui ont traversé la Méditerranée, ou même pour d'autres, quand tu te sacrifies pour tes enfants, et que tu pars pas dans un parcours classique où tu sais pas si vraiment, comme ma mère elle me dit, prends un métier où tu auras toujours une poire pour la soif. Et là, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu n'as rien, tu pars toute seule. Et je disais, mais maman, t'inquiète pas, j'ai une place. Elle me dit, tu crois vraiment qu'on t'attend à Paris? J'ai dit, si maman, on m'attend. Et donc, je suis partie.
Oui, il veut vous envoyer faire du moonwalk sur le cactus.
Ouais, hein, quand j'ai dit, parce que la menace était d'aller chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle était sévère. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Elle était comme ça. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai adoré? Aujourd'hui, c'est mes meilleures vacances en Algérie. J'y retourne d'ailleurs chaque année. Mais quand on était petite, c'était la menace de mon père.
À la base, le rêve de Lila, ce n'est donc pas de jouer la comédie et de faire rire les autres. On l'a dit, c'est la danse. Il faut dire que l'époque s'y prête parfaitement.
Lila. 6 ans plus tard, j'avais toujours pas de cheveux sur la tête. Malika se prenait toujours pour Janet et on avait découvert ça. Le virus du hip-hop avait contaminé la planète. Et comme des millions de jeunes, on a été piqués. Ça sentait la transpiration, le safran et le poulet, mais je m'en foutais. Ici, on ne me posait pas de questions sur ma casquette. On passait notre temps à danser et toutes les petites voulaient nous imiter. On a vu Jessie nous rejoindre. On a monté notre propre crew. On l'a appelé les Black Barbie. Et comme on avait besoin d'une blague, tout le monde avait oublié ma cicatrice. J'étais devenue la bosse.
Et sur le film, Nawel Madani, est-ce que vous étiez aussi la bosse?
Sur le film, oui. Oui, oui, j'étais la bosse, hein, 5 semaines de tournage. 90% des acteurs étaient amateurs. J'avais un copilote extraordinaire, Ludovic Colbeau-Justin, 20 ans chef-op. On s'est tout de suite entendu.
Comment est-ce que vous êtes réparti les rôles, justement?
La lumière. Je voulais une lumière impeccable. Vraiment, je voulais pas que... Souvent, les comédies, l'image passe à côté. Donc, la lumière... Le cadre, parce que j'avais des idées bien précises, on a décortiqué ensemble mais chaque scène et puis chaque film qui m'avait inspiré et on a travaillé ensemble sur vraiment là-dessus mais par contre la direction d'acteurs, le choix des acteurs, le choix des décors, j'ai pris la main.
Avec quels critères précisément? Est-ce qu'il fallait se rapprocher le plus possible de votre parcours ou au contraire est-ce que vous vous êtes senti complètement libre par rapport à tout ça?
Franchement, c'était ma vérité, en fait. J'ai cherché à avoir les lieux où il y a vraiment des castings de danseurs. Je suis partie tourner là où j'ai vu dernièrement un clip de rap se faire tourner, où il y avait pas mal de danseuses qui checkaient de partout. Donc je suis repartie un petit peu à la recherche de certains clips de rap sur Internet. Et puis j'ai été puisée aussi dans mes souvenirs. Je suis repartie au Café Oscar. Là où j'ai fait mes débuts.
Oui.
Et c'est un peu de tout. C'est des recherches, des découvertes, mais beaucoup de moi aussi.
Alors Lila va donc quitter la Belgique, le cœur un peu gros. Elle y va pour elle. Est-ce que, quelque part, elle va pas aussi un peu pour son père?
Elle y va pour son père. C'était mon obstacle et aussi mon moteur. Je voulais leur rendre aussi l'ascenseur. Mes parents se sont beaucoup battus pour moi en particulier, parce que j'étais la différente des autres. Ils ont souffert, je pense, de cet accident domestique. Mon père en a voulu à ma mère en a voulu à mon père. J'ai pas grandi comme les autres. Chaque fois que je rentrais en pleurant, ils se disputaient dans la chambre et je les entendais crier et ça me faisait mal au cœur. Donc je me suis dit, quand je serai grande, je vais réparer la bêtise que j'ai faite. Et j'ai gardé ça au fond de moi. Et je me disais, avec un petit salaire, jamais je pourrais leur faire oublier toutes ces épreuves. J'imaginais en haut de l'affiche, parce que mon père ouais. A tourné le dos à sa carrière de footballeur pour ses enfants. Et je lui disais, tu verras papa, un jour ou l'autre ton nom sera encore en haut de l'affiche.
Bon, mais au début c'est la galère hein, pour Lila quand elle arrive
à Paris.
Pour moi
12 ans, pour elle quelques semaines.
Oui, donc on dort dans la voiture, on passe des castings compliqués. Vous l'avez fait là, les petites présentations de supermarché dans des... Avec des costumes un petit peu ridicules sur les bords quand même. Oui.
J'ai fait surtout les feux rouges, où j'ai distribué des canettes pour des boîtes d'événementiel. J'ai dansé dans des boîtes de nuit, dans des pubs. J'ai fait tellement de choses pour gagner ma vie, ouais.
Pas la prison quand même.
Non, ça s'est arrivé à une amie à moi. Quand on a débarqué à Paris, on était assez naïve. Elle s'est fait avoir, moi j'étais à l'abri de tout ça.
Et puis un jour, au détour d'un casting qui se passe pas très bien, eh bien le prince charmant débarque en la personne de Doom, joué par Djibril Zonga. Il a tout pour lui, cet homme-là.
Je m'envole sur les flots. Je veux attraper le soleil pour toucher le ciel.
Ça tue, ça c'est pareil.
À deux rues d'ici, t'as des putes, des dealers et des junkies. Ça aussi, c'est Paname. Tu kiffes autant Paris que ça?
Bah ici, je me sens libre, je peux rêver. Même si j'ai pas un bal. Qu'est-ce que tu fais?
Oh, calme-toi. Calme-toi, t'as du chocolat.
J'ai du chocolat? Tu veux m'embrasser, ouais.
T'as du chocolat, je te dis, regarde.
J'ai du chocolat. Toi, je kifferais habiter ici.
Je posais juste là, moi.
T'es posé juste là, t'as du chocolat. T'as une vie sur Paris?
Ouais, mais bon, c'est pas chez moi.
C'est chez qui?
C'est un pote qui bosse sur Dubaï. Il a plusieurs apparts comme ça et c'est moi qui les gère.
Ah ouais? Il est dans l'import-export, l'immobilier, la location de voiture?
Non, les trafiquants de drogue.
Narcotraficante.
J'apprends vite ou pas?
Ouais. Je peux visiter?
C'est ton plaisir.
Voilà, et là on se dit que le monde commence un peu à tourner, mais tout évidemment n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes une romantique, Nawel Mazen?
Une grande romantique, ça.
Ça se voit tout de suite, hein, ah ouais. Même quand vous avez du chocolat au coin de la bouche, hein, ou peut-être surtout. Hein.
Je suis une très grande romantique. D'ailleurs, j'aurais pu faire un premier film, une comédie romantique, je l'aurais fait. Vraiment, c'est ce que je voulais en plus. J'essayais de convaincre mon producteur. J'adore. Moi, quand je vais mal, je regarde une belle comédie romantique et je repars.
Bon, le message du film, c'est quoi? C'est il faut prendre des risques, il faut se donner les moyens de réaliser son rêve.
Il faut sortir de sa zone de confort, se mettre en danger. Je pousse les gens à aller au bout de leurs rêves, mais surtout ne pas s'éloigner de ceux qui nous aiment vraiment, parce que c'est eux qui nous rattrapent quand on tombe.
Non, mais pour ça, il faut quand même avoir confiance, réussir à prendre confiance en soi.
C'est vrai.
Et puis peut-être aussi avoir confiance dans les autres, faire confiance à quelqu'un qui peut vous pousser, qui peut devenir votre mentor, le mot est peut-être un peu fort, mais
oui,
quand même.
Oui, Pygmalion, moi
Pygmalion, voilà.
J'ai rencontré des personnes bienveillantes qui m'ont tendu la main, qui m'ont posé des vraies questions sur ce que je faisais sur scène, sur ce que je voulais laisser derrière moi, les messages. Parce qu'au début, je courais beaucoup après le rire facile. Je faisais des accents et tout, puis je venais de commencer, je comprenais pas trop ce qu'on essayait de me faire comprendre. Et eux m'ont poussé à m'émanciper. Ouais.
Et dans le film, le Pygmalion en question, c'est Fabrice, incarné par François Berléand. Alors comment est-ce que vous l'avez convaincu de faire le film, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de quiproquo au départ, c'est vrai? Non,
déjà lui il pensait que c'était Maïwenn.
Voilà, Maïwenn, Nawel, il commence à être un petit peu dur d'oreille visiblement, François Berléand. Hein.
Il révèle des...
Donc il a dit oui à Maïwenn.
Festival de Cannes, je crois. Il a dit oui à Maïwenn et moi je lui envoie un mail de mon côté où je lui ai écrit: François, voilà mon scénario, viens sur mon film, il y aura des tagines à la cantine.
Ah. Et donc, là, il s'est dit, Maïwenn et Tajine, c'est pas tout à fait le même coin.
Et pourtant, si. Parce que des origines qui sont pas loin de chez moi, hein, du père et de la mère, je pense. Donc, je vais à sa rencontre, et quand il me voit, il dit, ah, ok, je la connais pas.
D'accord. Et finalement, il a confirmé son accord quand même, hein, visiblement.
Non, mais il aime beaucoup le scénario. Il m'a dit que si j'étais fidèle au scénario, j'allais faire un beau film.
Bon.
Il m'a tapé dans la main, il m'a dit, peu importe le budget que t'as, je te suivrai. Il a tenu sa parole.
Oui. C'est un personnage un peu ronchon, un peu besogneux, hein, dans le
film.
Fabrice. Mais bienveillant, quoi. C'est lui, finalement, qui va vous sortir du ruisseau et qui, petit à petit, va vous permettre de gravir l'escalier.
C'est un nounours grincheux. Et c'est vrai que il a cette mono-expression que j'aime beaucoup. Il est lunaire, hein. François, j'adore son humour. Et il m'a aidé vraiment, même sur le tournage, à que je sois juste. Des fois, il me dit, tu vas trop vite, Nawel. Tu parles trop verlan. Si tu veux que ça s'ouvre à ton public, arrête. Même moi, je te comprends pas.
D'accord, donc il n'est pas très loin du personnage de Fabrice, effectivement.
Ah oui, mais lui, il l'avoue complètement. Hein, parce que j'étais beaucoup sur les autres. Et puis, à un moment donné, quand j'étais face à lui, d'ailleurs, je perdais mes moyens. Je savonnais énormément. Il rentrait toutes les prises en une fois. J'étais complexée.
Alors, on va revenir sur votre carrière dans le stand-up, sur votre apprentissage, votre succès aussi dans la deuxième partie de l'émission, en particulier à travers votre spectacle « C'est moi la plus belle ». Et puis, on va accueillir Antoinette Colin, qui est la directrice artistique du Point Virgule, l'une des salles incontournables de l'humour à Paris. Et vous m'en direz des doutes.
Vous m'en dites. direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Toujours avec Nawel Madani à l'occasion de la sortie du film C'est tout pour moi en salle depuis hier. Une success story, comme on dit en anglais. Est-ce que vous êtes fier de ce parcours, Nawel Madani ?
Je suis fière. Je suis très heureuse de vivre de ma passion, de faire vivre aussi pas mal d'artistes autour de moi. J'ai 17 danseurs avec moi en tournée. J'ai donné des coups de pouce à ma manière. J'essaye de renvoyer l'ascenseur aussi. Donc c'est aussi ça, c'est vivre ses rêves et les partager.
Bande annonce.
1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça. Now. C'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar.
C'est les filles. Elles font la danse au gymnase.
Et eux, c'est les balances du quartier.
Avec des noirs là-bas, Al-Khalid.
Et les arabes aussi.
Ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi.
Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus.
Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris.
Change.
Laisse-moi t'expliquer.
Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer. Tant que t'es sous mon toit, c'est moi qui dicte les règles.
Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué.
Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment ?
Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up.
J'ai pas le temps, j'ai pas le choix. J'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable.
Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi ?
Je vais monter sur scène.
Wow, t'es humoriste, toi.
J'essaye.
À 25 ans, je quitte Bruxelles pour courir Paris.
Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes ?
La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croivent trop, ils sont tout seuls.
Ok, bon, on va reprendre les bases, alors.
C'est-à-dire ?
Ben, le français.
Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui...
Reste toi-même.
Je vais tout niquer, d'accord ? Y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour ?
C'est tout pour moi, c'est une formule qui arrive à la fin de chacune des prestations hein, des soirées stand-up, une forme de passage de relais, hein, c'est ça ?
Exactement,
Madani,
c'est un salut.
Et pour vous, à travers le titre de ce film, c'est quoi ? C'est un moyen de dire, la scène c'est tout pour moi ? Ou bien c'est une
Exactement.
Façon de dire, j'ai fini ma carrière, je m'arrête et je rentre chez moi ?
Oui, en fait c'est pour dire que la scène c'est tout pour moi, que mes parents sont tout pour moi. Et puis c'est vrai que si après ce film je ferai plus de cinéma, c'est pas grave, parce que ce sera tout pour moi.
Bon, dans la vraie vie, le personnage de Fabrice, le personnage joué par Fabrice Berléand, c'était qui ?
Bah, je vais pas relier ça tout de suite à une personne, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, en une trentaine d'années. Il y a pas qu'une personne qui m'a aidé à me construire. Il y a eu Damien Coca qui m'a poussé à monter sur scène. Hein. J'ai poussé les portes de ses ateliers de théâtre. Puis il y a eu Papy qui m'a repéré au Pranzo, qui m'a invité à rejoindre la troupe du Jamel Comedy Club. Puis il y a Ali Bougaraba, mon metteur en scène, qui me pousse au quotidien à travailler davantage, à me poser des bonnes questions à travers ce que j'ai envie de projeter sur scène et de ce que j'ai envie de faire par la suite. Enfin, il est là toujours un temps d'avance.
Bonjour Antoinette Collin.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice artistique du Point Virgule à Paris, aux côtés du propriétaire des lieux, Jean-Marc Dumontet. Alors, on avait envie de vous avoir avec nous pour parler du monde du stand-up que vous connaissez bien. D'abord, peut-être une définition. Le stand-up, c'est un terme qui est américain, à la base. C'est un terme qui est pas facilement
Exactement.
Traduisible en français.
C'est du jeu debout.
voilà,
c'est,
oui.
C'est du théâtre. Oui, c'est la forme initiale est très américaine. Après, je pense qu'il y a des acteurs majeurs maintenant en France qui se sont appropriés. Et au quotidien, moi, je suis dans la révélation, le développement des nouveaux artistes.
Mais quelle est la différence entre le stand-up, le sketch, le seul en scène, le one-man show ? C'est pas tout à fait la même chose.
Alors non, c'est pas tout à fait la même chose. Après, nous, dans la recherche des nouveaux talents, on est dans la quête d'authenticité. Voilà, le stand-up, c'est raconter sa vie, être à la première personne.
Il faut parler de soi.
Il faut parler de soi, et puis il faut
réussir. Mais parler de soi ou s'inventer un personnage en disant « je » ?
Disons, je pense que c'est un peu, ça peut être entre les deux, parce que le but, c'est évidemment d'écrire de la vanne, d'être dans la rythmique, d'être efficace. Et l'efficacité du stand-up est propre au stand-up. C'est-à-dire, quand vous faites du one-man show, on peut s'accorder plus une écriture, j'allais dire une écriture moins efficace, plus détendue, donner une part plus large au jeu. C'est pas forcément le. C'est surtout pour moi une histoire de rythmique et d'exigence d'écriture.
D'accord. Donc il y a quand même des règles très précises dans le stand-up. Alors quels sont les critères justement, puisque vous parcourez la France, l'étranger aussi peut-être.
Oui, ben Belgique.
On a la Belgique. Voilà, la Belgique, c'est l'étranger. On est tout à fait étranger quand même. Ah, bon, voilà.
Mais, francophone.
Voilà. Mais alors quels sont les critères qui vous font dire ah ce jeune ou cette jeune artiste là. Je la veux, je la prends,
souvent,
on va l'emmener au point virgule.
Souvent, c'est une écriture, c'est une vision de se réinventer les thèmes. C'est-à-dire que souvent, le stand-up,
faut
faire du neuf. Enfin, c'est tout l'art de réussir à parler à tout le monde, tout en trouvant vraiment sa ligne très singulière, très personnelle. Voilà, c'est comment tout d'un coup une thématique très large comme peut-être par exemple les transports en commun ou enfin voilà, on a toujours sur les auditions qu'on organise tous les mois, j'ai souvent pour la énième fois les situations dans le métro, dans les transports en commun. Et par exemple, quelqu'un comme Mathieu Madénian, par exemple, a vraiment réussi à s'approprier le sketch du métro, mais il s'est pas contenté, entre guillemets, juste de raconter à quel point c'était sale, que ça puait, etc. Voilà, il a vraiment réussi à se réapproprier le thème en se créant justement une part d'imaginaire, en inventant des personnages fictifs. Enfin, il a vraiment, et c'est une vision, c'est la vision toute singulière, particulière que vous pouvez apporter à une thématique grand public.
Alors voilà. Nawel Madani, comment est-ce que vous écrivez vos spectacles? On va entendre un très court extrait de votre DVD dans un instant, mais vous partez effectivement de vous, de vous-même, du quotidien, de ce que vous pouvez vivre ou de ce que vive votre entourage. Comment est-ce que vous écrivez les idées? Comment est-ce qu'elles vous viennent?
Tout en fait, je m'inspire de tout. Là par exemple, dernièrement, mon neveu a voulu m'offrir, ils ont fait à l'école des petits gâteaux. Et souvent, les petits gâteaux, quand ils sont faits en maternelle, ils sont dégueulasses. Le gâteau est tombé 4 fois, il revient avec un gâteau, il y a des cheveux dedans, il y a des traces de doigts, et il te demande de le manger devant lui. Et toi, t'as pas envie de mourir, quoi, ou d'attraper le tétanos, donc tu... Donc voilà, et de là, je vais partir d'un fait, de quelque chose que je vais observer, d'un truc qui va me faire rire, ou pas du tout, d'ailleurs. Souvent, c'est les déboires qui inspirent pas mal de choses. Et ça peut partir d'une observation, d'une situation, de ce que je vis avec mon film, de ce que je peux voir un couple dans un métro en train de se disputer. Ça va être mon métro à moi, mon aventure à moi.
Ouais.
Et je pense que la différence entre le stand-up et le sketch, c'est que le sketch, on peut camper un personnage et on peut pas intervenir avec le public. Mais le stand-up, et moi ce que j'appelle le sketch-up, c'est parce que je peux interpréter un personnage. Si quelqu'un parle, je peux sortir du personnage, lui répondre et retourner dans le personnage. Il n'y a pas ce quatrième mur comme on peut avoir quand
d'accord,
on
donc
fait
y a une
du sketch
vraie interaction
avec le public.
Avec le public, et c'est vrai que c'est le public qui est le juge de paix.
Voilà,
hein.
Et le stand-up, c'est pas forcément, on parle pas forcément de soi, on peut parler de la politique, on peut dire, voilà, on donne son avis sur la société, sur ce qu'on observe. On n'est pas forcément obligé de partir sur un récit autobiographique. Moi, je l'ai fait, j'ai des quelques digressions où je parle du terrorisme, d'autres choses, des histoires de couple ou le fait de voir des copines qui ont un enfant. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus engagées et qui vont enchaîner des punchlines et ça va parler que de la politique ou de l'actualité.
D'accord, donc chaque artiste peut évidemment avoir sa propre identité. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, même si les règles sont quand même strictes.
Il ne faut surtout pas faire, c'est ça.
Voilà.
D'ailleurs, moi je dis souvent, il y a un artiste, souvent dans les quotas, pas les quotas, mais les périodes, il y a vraiment quelqu'un qui sort très fortement tous les 5-6 ans. Donc finalement, c'est très peu face au nombre d'humoristes qui existent en France. Et c'est souvent parce que c'est très original, c'est très, une fois de plus, la singularité. Puis il y a un sens du rythme,
C'est surtout les gens maintenant aujourd'hui, ils veulent rencontrer des personnes, des personnages. Enfin, des personnes. Ils veulent. En fait, moi, je me rends compte que ceux qui pètent, comme on dit, ceux qui explosent, qui passent le plafond de verre, parce qu'il y a un vrai plafond de verre dans le métier. Il y a ceux qui sont là depuis 20 ans, puis t'en as très peu qui émergent. On est tous là en train d'essayer d'y arriver, et t'as les mentors qui sont là depuis très longtemps, et il y en a très peu. C'est parce qu'ils vont toucher une cible qui n'a pas été touchée, comme Kev Adams. Il n'y a personne qui touchait sa cible, personne. Moi, la mienne aussi. Il y a des jeunes filles qui n'avaient jamais poussé les portes d'un théâtre. Mon premier public, c'était des nénettes qui me ressemblaient énormément. D'abord, ça a été les filles d'origine africaine. Et puis elles ont appelé leurs copines. Et puis, j'avais vraiment une génération black blamber.
Oui.
Mais que des meufs.
Avec une forme d'humour communautaire, certains diraient communautariste, presque, d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas une façon de,
moi,
de se fermer
sur
soi-même?
Hein,
non, pas forcément vous, mais d'une façon générale.
Non, c'est
vrai
que
la génération de Jamel Comedy Club a beaucoup joué là-dessus, Antoinette Collin.
Je dirais pas, pour moi, il y a une histoire de vision. C'est-à-dire, ce qui fait rire, la performance de Jamel, ça a été à rire des quartiers et de franchir le périph, quoi. Moi, je suis arrivée peu de temps après, mais il avait passé une audition au point virgule, Jamel, par exemple. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, on a eu, plein de petites Jamel qui sont venues taper à la porte. Et il faut des gens, comme Jamel, comme Nawel, qui défoncent tout pour ouvrir le chemin.
Oui, mais en même temps, on est aussi sur des thèmes qui parlent d'intégration, qui parlent des cités.
Pas que. Moi, je me souviens justement de Jamel qui parle de sa maman. Il parle de sa maman. Il parle de choses qu'il vit au quotidien.
Aujourd'hui, il parle de ses enfants et de sa femme.
Voilà, c'est ce qui touche tout le monde.
Oui.
Moi, je trouve le tour de force, et c'est pour ça que personnellement, je recrute pas des quotas. Souvent, parfois, on m'a demandé, est-ce que vous prenez un humour, combien de taux de stand-up, ou est-ce que, ça m'est arrivé, est-ce qu'on me demande, est-ce que vous prenez tant d'artistes maghrébins, tant, etc. Mais c'est très choquant, et puis pas du tout. Enfin, moi, vraiment, une fois de plus, c'est qu'est-ce que l'artiste raconte.
Oui, après, avec le Jamel Comedy Club, forcément, ça vient de Jamel. Donc il y a
le réseau.
Exactement. Oui. Donc forcément, il y a des gens qui viennent voir.
Je suis d'accord, et dans le même temps, je me souviens, j'ai pu accueillir dans la même période où, par exemple, un artiste comme Mohamed Noir jouait tous les week-ends au Comedy Club. Il venait aussi, parce qu'à Paris, il y a plusieurs plateaux, etc. Il venait aussi au point virgule. Et après, c'est une histoire de, j'allais dire un peu de, passez-moi l'expression.
Oui.
Hein. Mais il y a des artistes qui parfois se disaient, non, je peux pas aller au point parce que je suis au Comedy Club et parce que ce que je raconte concerne le public du Comedy Club.
Oui.
Pas du tout.
C'est pas aussi segmenté qu'on pourrait le penser.
Pas du tout. Non. C'est pour ça que je dis, faut basculer les petites barrières qu'on peut avoir parce que c'est se fermer soi-même.
Mon père était très fier de son chien. Il était très très fier de son chien. Il disait à tout le monde, moi mon chien me ramène le journal tous les matins. Tous les matins il me ramène le journal. La voisine est venue le voir, lui dit, vous savez monsieur Madani, beaucoup de chiens font ça. Il lui dit oui, sauf que moi je suis pas abonné.
Voilà, pour extrait du DVD de votre spectacle « C'est moi la plus belge », Nawel Madani, spectacle qu'on pourra d'ailleurs découvrir ou redécouvrir à l'Olympia les 13 et 14 décembre prochains. On parlait de communauté à l'instant, vous, c'est la Belgique, votre communauté. Vous êtes très fier d'être belge.
Oui, je suis fier d'être belge, je suis fier d'être des belgo-algériennes. Ça fait 15 ans bientôt que je suis en France, je me sens aussi française.
Oui. Mais pour être reconnu en Belgique, il fallait être reconnu d'abord en France.
Complètement, et c'est le problème.
C'est toujours le cas aujourd'hui.
Ouais, c'est toujours le cas. Moi, j'ai essayé de faire des choses là-bas. Il n'y a que depuis que ça marche ici que j'arrive à faire des petites choses en Belgique. C'est très compliqué.
Ouais,
la même problème qu'avec les Canadiens. Les Canadiens aussi, ils ont le même souci.
Ouais. Alors, dans le film, le processus apparaît quand même assez clairement. On a une idée de vanne, une idée d'histoire. On la teste auprès du public une première fois. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on jette. C'est aussi simple que ça, Antoinette Collin.
Faudrait que ce soit aussi simple que ça. Bien souvent, je tiens sincèrement à saluer tout le parcours, toute la ténacité. J'ai un grand respect pour le parcours de Nawel parce que j'ai à entendre tout ça. J'ai l'impression de souvent je suis dans ces conseils-là modestement, mais de dire faut prendre le pouvoir. Et un humoriste, surtout en one man show, doit prendre le pouvoir, doit savoir s'entourer, doit savoir collaborer. Et souvent dans le repérage, les artistes sont trop tout seuls. Et il s'enferme dans cette solitude. Et plus vous restez longtemps seul, plus c'est difficile de tendre la main pour demander de l'aide.
Ouais, mais
et
après,
à travailler.
Après, Antoinette, oui. il faut le souligner. Quand moi, j'ai joué dans des vraiment des petits clubs de stand-up, c'est des caves aménagées. Et Antoinette était venue me voir jouer. Et quand on a des personnes comme Antoinette, on sait ce qu'elle représente dans le métier. On perd vraiment nos moyens. Moi, je sais que le jour où elle est...
Forcément, le stress, oui.
Mais oui, parce qu'on sait qu'ils peuvent être déclenchés. Enfin, moi, j'ai vu des carrières switchées.
Ça passe ou ça casse. Quoi.
Voilà. C'est-à-dire, elle récupère des gens, elle vous les emmène au top. Et on sait que quand il y a une personne comme Antoinette, il y en a 3-4 comme ça dans le métier, qui vraiment vont dans tous les clubs de stand-up. Antoinette vraiment va voir tout le monde. Elle a connu mes débuts. Et elle vient en sortie de salle, elle vous parle. Elle vous donne la chance de venir chez elle. J'ai joué chez elle au point virgule.
Oui.
J'ai fait les premières parties d'artistes. J'ai fait des plateaux. J'ai tout fait. Et c'est vrai que ça nous ouvre à un autre public parce que c'est aussi une question de quartier. Le Marais, Montparnasse, c'est différent que les grands boulevards. C'est pour ça qu'on rôde notre spectacle parce qu'on sait que quand on joue à Marseille, c'est pas le même public qu'à Paris. Et à Paris, d'un quartier à un autre, c'est là où on se dit, je vais ouvrir. Il faut ouvrir.
Donc ça, c'est intéressant quand même, Antoinette. Ça veut dire qu'on ne rit pas de la même façon, non seulement suivant les villes, mais même suivant les quartiers.
Les clubs.
Il y a un public
absolument.
Par club,
mais c'est
un
pour
type
ça que
d'humour
je
par
parle
club.
De dépasser les frontières. Quand les artistes ne restent trop longtemps dans un lieu, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller se frotter à tous les publics. Parce que le but, c'est vraiment d'être accepté de tous. Voilà,
ils ont des abonnés, par exemple, au point virgule. C'est un public averti. Ils aiment l'écriture. Ils aiment quand c'est poussé. Donc, quand vous venez au point virgule, il faut tenir. Les gens, on peut très vite se ramasser là-bas.
Posé dur toute la semaine. Hey, j'ai posé sur la route du sommeil, juste mes semaines. Hey, un jour ça va payer. Je vais quitter le quartier, quitter la zone, m'enfuir dans des zones, les soucis n'ont pas pied. Oh, je vais les braquer, je vais pas les rater. Mais j'ai besoin de ta bénédiction avant de les faire hacker. Hey. Oh papa, oh papa. Hey. Tu as peut-être raison, mais je te demande d'y croire. Hey. Oh papa, oh papa. Hey. Un jour je mettrai ton nom en haut d'Olympia. J'en prie, fais-le pour moi. Tu sais, c'est dur pour moi. Ça représente tout pour moi. Papa, c'est tout pour moi. T'en prie, fais-le pour moi. Tu sais, c'est dur pour moi. Ça représente tout pour moi. Papa, c'est tout pour moi. Un jour dans la rue.
Joker, extrait de la bande originale du film, C'est tout pour moi, de Naoul Madani, qui est avec nous aujourd'hui en compagnie d'Antoinette Collin. Alors dans le film, on assiste donc au début de Lila et donc un petit peu au vôtre aussi, Naoul Madani, dans le milieu du stand-up. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on a un peu l'impression que c'est un milieu de requins, quoi. Tous les coups sont permis, on va pas raconter, mais il y a une scène extraordinaire où on vous fait un coup de jarnac, mais absolument terrible. C'est un milieu de requins.
C'est un milieu comme partout, il y a beaucoup de compétition. Moi, j'ai vécu bien pire que ce que je raconte dans mon film. Je venais de débuter, ça faisait 3-4 mois, et c'est vrai que comme il y a peu de femmes, on est beaucoup sollicité très vite en fait. Il faut être à la hauteur du rendez-vous. J'avais pas beaucoup de matos, comme on dit. J'avais pas de set, j'avais pas de hit comme on dit dans le jargon du stand-up. Et j'ai fait appel à des auteurs, et j'ai un auteur qui me vendait des vannes de stand-upers américains que je ne savais pas. Donc je jouais des vannes de quelqu'un d'autre et je payais ces vannes-là.
Ah oui.
Donc il faisait du recel de vannes. Et je suis montée sur scène, et comme le public aujourd'hui est un public qui connaît très bien le stand-up, j'ai une nana qui est venue me voir, qui m'a dit, mais ça ne t'appartient pas. Et j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'en fait on me vendait des vannes.
Ouais. Visiblement, vous n'êtes pas la seule qui insistait justement sur ce mimétisme entre les Américains et les Français. Vous avez vu, j'imagine, Antoinette Collin, ces accusations de plagiat sur la chaîne YouTube, copie comique avec des grands noms. On parlait de Jamel, justement, Gad Elmaleh, Tomer Sisley, d'autres encore ont été mis en cause. Il y a un vrai problème là quand même. Si les auteurs que l'on croit
ont tout piqué
chez les Américains.
Je ne connaissais pas la situation qu'avait pu vivre Nawel. C'est vrai que là, c'est terrible quand on se retrouve comme ça. Enfin, c'est hallucinant.
Mais est-ce que réellement, on a des auteurs de aujourd'hui ou bien est-ce que
oui, il y a des auteurs.
On traduit tout simplement ce qui marche aux États-Unis.
Ah non, il y a des auteurs. Non, je pense clairement que c'est une époque totalement révolue.
Mais ça a existé.
Internet, la preuve en est ce qu'a sorti. Donc,
d'accord, mais vous confirmez.
Oui, je confirme que ça s'est fait. Les preuves sont là. Donc voilà. Après, une fois de plus, moi,
mais
sur
c'est
toutes
pas nouveau
les auditions,
aussi.
C'est pas nouveau.
Oui, c'est secret de Polichinelle, disent certains. C'est un petit peu ce que vous pensez, visiblement.
Mais le premier à l'avoir fait, c'est Coluche. Il disait le premier qui le met en télé lui appartient. D'ailleurs, il se faisait jeter des clubs à l'époque. C'est sur les. Enfin, il y a beaucoup de témoignages autour de ça. Ça n'enlève rien de son talent. C'était déjà une pratique qui est connue et depuis toujours. Et ce garçon a fait des montages. Maintenant, ce que je me dis, la seule question, c'est est-ce que ceux qui sont montés sur scène étaient au courant? Parce que je suppose qu'ils ont aussi des auteurs, ces gens-là. Et parfois,
ils ont pu être abusés.
C'est pour ça que c'est le seul. Oui, c'est moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé.
C'est ça, voilà, qui est compliqué, quoi.
C'est ça, oui, qu'il faut dire. Est-ce que c'est volontaire ou pas? En tout cas, moi, de mon expérience, oui, c'est quelque chose qui se fait assez souvent et ça se fait même. On n'a pas besoin d'être super connu, ça se fait même entre stand-uppers.
Il y a toujours la crainte de se faire piquer avec justement toutes les scènes ouvertes, etc. C'est de notoriété en interne. Ne va pas là, tu vas te faire piquer ta vanne, etc. Enfin. Mais après, voilà, ça reste à une échelle. C'est quand on est connu que tout d'un coup, ça devient très problématique. Mais une fois de plus, je pense que c'est totalement révolu. Il y a 15-20 ans, Internet, c'était évidemment parce que...
C'est une problématique qui existe surtout pour... Enfin, moi, je trouve que le pire, c'est quand tu galères pour te fabriquer un set et que t'es pas connu, justement, et qu'on te le vole. C'est ce qui arrive à tellement de jeunes où tu dis il a un truc qui fonctionne et t'as peut-être quelqu'un de connu qui vient et qui le récupère et qui se dit de toute façon lui il va jamais péter. Et c'est ce qui est souvent arrivé à des jeunes humoristes, ils se sont fait dépouiller leur set. Maintenant je pense que grâce à YouTube, grâce à tout ça, c'est quelque chose qui va cesser. Mais maintenant, comme je dis toujours, il y a le bénéfice du doute de savoir si ces gens-là l'ont fait de manière volontaire ou pas, en fait.
Merci beaucoup à toutes les deux, Antoinette Collin et Nawel Madani. Le film « C'est tout pour moi », donc en salle depuis hier. Le DVD Blu-ray du spectacle « C'est moi la plus belle » de Nawel Madani chez TF1 Studio. Et puis je rappelle que vous serez également sur scène les 13 et 14 décembre prochains à l'Olympia. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Avant de se quitter, on va faire un tour du côté de Singapour. Pour la deuxième année consécutive, la Human Library, la bibliothèque humaine, revient là-bas avec un concept simple, emprunter un humain à la place d'un livre. Explication dans le reportage pour VMDN de Margot Bédé.
Hi, my name is Robina. I'm a domestic worker.
Ils sont une petite dizaine à la table de Robina, employée de maison d'origine philippine et Human Book ce jour-là. Le bracelet jaune autour de leur poignet indique qu'ils ont choisi ce livre humain pour l'écouter et lui poser des questions. Parmi les lecteurs, Adam, cet Indien de 31 ans, vit à Singapour depuis 10 ans et pourtant il a le sentiment de ne pas vraiment connaître ses habitants. C'est pour cela qu'il est venu à la Human Library.
À Singapour, c'est difficile de rencontrer des personnes de différentes classes sociales. Je suis venu pour écouter leur histoire.
Quel Human Book avez-vous choisi ?
J'en ai plein. Employés de maison d'origine étrangère, parce que j'en ai une et je veux comprendre leurs problèmes à Singapour. Une personne dépressive, parce que je le suis aussi et je voulais rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. C'est plus simple d'écouter une personne pendant 30 minutes que de lire un livre de 400 pages à son sujet.
I know I can help the domestic workers.
De retour à la table de Robina, l'employée de maison d'origine philippine, les questions s'enchaînent. Il faut dire que le sujet est délicat à Singapour. Les employés de maison appartiennent aux familles qui les emploient, des familles pas toujours bienveillantes. Ces employés n'ont qu'un seul jour de repos par semaine. Robina a profité de ce jour pour raconter son histoire. Ce genre d'événement permet aux gens de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux. En parlant à différents Human Books, vous vous direz « Oh, ça existe !» Donc moi, je peux utiliser ça pour sensibiliser davantage les gens, pour régler le problème
problèmes des employés de maison en situation de maltraitance. Vous ne saurez jamais ce qui se passe, à moins que vous ne preniez le temps de poser des questions. Le plus important, c'est de poser des questions, être curieux tout le temps.
C'est pour aborder un autre sujet sensible que Kirsten Han a décidé de devenir Human Book. Cette journaliste singapourienne milite contre la peine de mort. C'est difficile pour nous, les Singapouriens, de parler de la peine de mort. Ce que j'aime avec ces petits groupes, c'est que les gens osent davantage poser des questions personnelles. Aujourd'hui, on m'a posé la question, quand tu milites contre la peine de mort d'une personne qui a commis un meurtre, est-ce que tu te sens mal pour la famille de la victime quand tu dis qu'il ne mérite pas de mourir? Avec ces sujets parfois sensibles et des questions sans tabou, la Human Library a déjà été victime de censure en Russie à cause d'un Human Book qui était homosexuel. Si la liberté d'expression est également relative à Singapour, les organisateurs ne sont pour le moment pas inquiets qu'Elie Zainal a initié l'événement dans la cité-État.
Les Human Library ne défendent pas des causes, on ne soutient pas les droits des homosexuels, on ne soutient pas les réfugiés, on permet juste à différents groupes de personnes de discuter entre eux. On ne peut pas influencer les gens, leur dire ce qu'ils doivent retenir de cet événement. On ne peut pas promettre qu'après cet événement, vous allez reconnaître les défis auxquels les travailleurs du sexe font face et que vous allez les soutenir à 100%. L'idée, c'est juste d'ouvrir des conversations et de comprendre les points de vue de chacun. Et on espère qu'en partant de là, les stéréotypes pourront être brisés et que l'on apprendra à mieux se comprendre les uns les autres et à davantage se respecter aussi.
Ne jugez donc pas un livre sur sa couverture, n'hésitez pas à aller vers lui. Voilà la mission de la Human Library qui a été organisée dans plus de 70 pays.
Reportage de Margot Bédé. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec la chanteuse Laurie Pester. Elle sera avec nous pour son nouvel album Les choses de la vie et vous m'en direz des nouvelles.
Pour faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.